Donc, quelques réflexions à propos des étapes dans la vie. J'aimerais commencer en disant que la notion du progrès est une notion extrêmement récente. C'est-à-dire, je tiens pour la notion de progrès la notion que l'avenir va être différent du passé et meilleur du passé. Ça, c'est la notion de progrès, que le lendemain sera un peu mieux que la veille, etc. Ça peut sembler évident que tout le monde songe au progrès, enfin on prend pour acquis qu'il doit y avoir du progrès. Mais si on regarde les archives historiques et tout ça, nous voyons que beaucoup de civilisations avaient une mentalité cyclique et qui considéraient que les mêmes choses se répétaient continuellement. Et donc, selon cette philosophie-là, la meilleure façon de se préparer pour la vie, c'était en apprenant comment les gens qui nous ont précédés ont fait, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si on présume que la vie de demain va être pareille à quelque chose de près de la vie d'hier, si on ne s'attend pas à des grands changements, eh bien, la meilleure préparation pour la vie de demain, c'est de bien assimiler la façon qu'on a vécu dans le passé, parce que c'est comme ça qu'on vit, n'est-ce pas? Et si on regarde dans l'histoire, on voit que cette mentalité cyclique a été prédominante. Et cette vision de l'histoire, que l'histoire est simplement une sorte de chaos d'événements qui se répètent. Donc, en quelque sorte, chaque génération revit ce que l'autre génération a vécu, n'est-ce pas? On ne passe pas un cycle, on est né, on grandit et tout ça, on fait certaines choses, on fonde une famille, etc. Et puis on meurt, et puis voilà, la prochaine génération fait la même chose, et puis ça continue de même. Et même les grands philosophes comme Platon, Platon a écrit La République, c'est un livre dans lequel il explique comment régler, comment ordonner la société. Mais jamais Platon pose la question d'où vient l'histoire. Platon prend pour acquis que l'être humain est comme ça. Étant donné que l'être humain est comme ça, voilà ce qu'il faut en faire avec. Il donne un mode d'emploi, si vous voulez, pour l'être humain. Mais il ne pose jamais la question d'où vient cet être humain? Qu'est-ce qui fait que l'être humain est comme ça? Quel processus a amené l'être humain à avoir des qualités qu'il a? Donc, l'autre vision de l'histoire, c'est la vision donnée par Baha'u'llah. Et Baha'u'llah est sûrement le premier prophète de donner cette vision. Et c'est la notion que l'histoire est un processus organique qui mène en avant. Et que il a différentes étapes dans ce processus. Et ces étapes se vivent au niveau individuel, dans nos vies individuelles et aussi collectivement. Alors, peut-être vous dites, je sais bien, tant mieux. Mais sachez que cette idée-là que je viens d'articuler est extrêmement récente. Vous remontez au-delà, mettons, de 1800, vous n'allez jamais trouver, à ma connaissance, un philosophe ou un prophète qui livre cette vision de l'histoire, que l'histoire est un processus. Juste pour vous convaincre de la chose, prenez la foi chrétienne. La vision chrétienne est justement l'opposé. L'homme a commencé dans le paradis, dans la perfection, et il a désobéi, il a chuté. N'est-ce pas? C'est ça le langage des chrétiens. L'homme est chuté, et l'histoire de l'humanité, c'est quoi? C'est l'histoire de la conséquence de la chute. L'homme est un être dégradé, chuté. Ben, c'est pas moi qui invente, n'est-ce pas? C'est ça le langage. Alors, c'est pas du tout une vision de progrès. L'histoire, c'est en quelque sorte simplement les conséquences de la chute de l'âme disons, si on prend l'Église catholique, la position assez définitive de l'Église catholique, que l'homme est tellement corrompu que le mieux qu'on puisse faire, c'est le baptiser pour le sauver du péché originel et l'expédier le plus vite possible dans l'autre monde avant qu'il ait le temps de commettre un péché mortel et ainsi se bousiller la vie pour toute l'éternité, n'est-ce pas? Donc, il n'a certainement pas une grande foi dans le potentiel de l'être humain, dans la notion de progrès que l'être humain doit faire quelque chose ici, pas. Parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il est corrompu. Tout ce qu'il va faire va être teinté de cette corruption dans sa nature, n'est-ce pas? Il va fonder une famille, mais le sexe, c'est quand même une chose, un péché, en fait, essentiellement. Et donc, tout ce qui entoure ça, c'est ça mène l'homme au péché, en fait, etc. Il va exercer une profession, mais les gens sont menteurs, les gens sont voleurs. Enfin, tout ce qu'il entreprend, et tout ce qu'il peut entreprendre, est teinté, est taché de cette corruption fondamentale dans sa nature. Jésus est venu pour nous sauver, pour nous expédier dans l'autre monde, et puis voilà, c'est à peu près là. C'est pas une image extrêmement, extrêmement positive du potentiel humain. Prenons un autre cas. Prenons l'hindouisme et le bouddhisme, enfin, la résignation et la négation. C'est la base de ces pensées. Pourquoi il n'a pas eu, pour ainsi dire, presque pas de progrès matériel ou scientifique venant de ces cultures-là? Maintenant, ils ont assimilé une certaine culture scientifique qui est venue de l'Occident, mais c'est parce que, encore une fois, ils ont cette mentalité cyclique et un peu fataliste, qui tout ce qui nous arrive, c'est notre dû parce que c'est le résultat des péchés qu'on a fait dans une vie antérieure. Alors il y a cette notion que le sommet que l'homme puisse atteindre, c'est une sorte de résignation complète à la vie. Enfin, donc la notion, c'est l'ascète. C'est la personne qui renie tout, qui renie les relations sexuelles, qui renie les activités. Par exemple, on raconte l'histoire d'un saint, entre guillemets, hindou, qui ne se lavait pas, en fait, comme la plupart des ascètes ne se lavent pas, parce que le corps est corrompu et tout ça. Bon, je vous épargne tout ça. Mais il était infesté de vers. Et quand un ver est tombé par terre, il a repris le verre, il l'a remis sur son corps, il a dit, mange ce que Dieu t'a donné à manger. Okay. Donc, mais ça reflète quand même une certaine vision. Donc, tout ça pour dire que la notion du progrès est extrêmement récente. Et que je remarque encore une chose, ok? Le monde de 1800, de point de vue progrès matériel, est à peu près inchangé par rapport à 1000 ans avant, 2000 ans avant, 3000 ans avant, n'est-ce pas? L'armée de César est allée au dos du cheval, et l'armée de Napoléon est allée au dos du cheval. OK? Si vous, le 99% de tout le progrès scientifique et technologique qui caractérise notre monde se fait depuis 1800, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je prends 1800 pour être certain de ne pas me compromettre, n'est-ce pas? Enfin, évidemment, le 19e siècle, c'est le siècle où ça commence à changer, n'est-ce pas? La machine à vapeur a été inventée et tout, et tout, et tout. Mais je prends comme date de coupure le 1800 et je dis que, du point de vue technique et scientifique, que le monde de 1800 était... Le progrès pendant 2000 ans avant cela était négligeable, était négligeable. D'ailleurs, par exemple, les systèmes de médecine, les plus efficaces étaient des systèmes anciens comme l'acupuncture qui vient de la Chine et tout ça. La médecine en Occident, c'était un désastre total. Les gens ne savaient même pas, bien entendu, les médecins ne savaient pas que c'était les bactéries qui causaient la maladie. Alors, la plupart des traitements médicaux étaient affaiblissaient le corps, comme le saignement, n'est-ce pas, et des choses comme ça. Et les médecins à la maternité à Paris allaient, pour accoucher les femmes, allaient directement de leur travail sur les corps, enfin, ils faisaient l'autopsie des corps et tout ça, sans se laver les mains. Pourquoi? Parce que les médecins, c'est des bourgeois, c'est une classe distinguée, un homme distingué, il n'a pas besoin de se laver les mains. Alors, quelque chose comme 90% de toutes les femmes qui accouchaient à la maternité à Paris mouraient. Parce que quand on donne naissance, comment que ça s'appelle quoi? La fièvre, enfin, en anglais, ça child s'appelle childbed fever, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, mais c'est que quand on accouche, comme vous savez bien, il a des plaies, n'est-ce pas? Ça ouvre des plaies. Et puis, donc, si on touche avec des mains sales, c'est, disons, c'est ouvert à l'infection, n'est-ce pas? C'est une infection très, très spécifique, ça s'appelle en anglais childbed fever. Il a un nom latin, mais enfin, peu importe.
Infection.
C'est quelque chose qui commence avec pour, comme périculture, péri, quelque chose. En tout cas, peu importe, peu importe. En tout cas, c'est presque inconnu de nos jours, n'est-ce pas? Mais là, c'était, ça faisait rage, n'est-ce pas? Alors, tout ça pour dire, évidemment, il y a des exemples qui me viennent à l'esprit continuellement, okay? Mais je pense que ça suffit pour au moins vous convaincre que ma thèse n'est pas si fantaisiste, que ce que nous appelons le progrès est une invention extrêmement récente. Maintenant, mais Baha'u'llah vient... Baha'u'llah vient nous dire que toute l'histoire est un processus et que chaque vie individuelle est un processus. Et quel est ce processus? Ce processus est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas un chaos d'événements, mais c'est un dialogue entre nous et Dieu qui a un sens profond. Et un des philosophes qui essayait, qui s'adressait à cette question de donner un sens à l'histoire et voir l'histoire comme un processus, c'était Marx. Et c'était l'attrait du marxisme pour les intellectuels. Parce que Marx était un des premiers philosophes de tous les temps qui tentait d'expliquer l'histoire. Comme j'ai dit, même Platon, Kant, Leibniz, Descartes, Il prenait pour acquis l'histoire. Il dit, mais maintenant qu'on est là, avec les capacités que nous avons, voilà comment il faut faire. Mais ils n'ont jamais cherché, j'ai relu un peu mon Descartes, parce que j'adore Descartes, mais ils ne parlent pas de ces questions, ils parlent de tout, la métaphysique, tout ce que vous voulez, la médecine, la science, mais jamais de l'histoire, jamais de l'histoire, jamais du processus. Donc, c'est vraiment Marx. Et Marx, bien entendu, la thèse de Marx, c'était l'histoire, c'était la lutte des classes. Bon, que ça soit vrai ou non, pour le moment, ça explique un certain vécu de l'histoire. C'est-à-dire, quand on dit aux gens, mais voilà, l'histoire est une lutte des classes, regardez l'histoire, regardez les guerres des religions et tout ça, vous commencez à expliquer à un paysan ou à un intellectuel, à n'importe qui, ça éclaire, n'est-ce pas? Il dit, mais voilà, ça donne un contexte pour comprendre l'histoire qui autrement ne semble pas avoir de sens. Ça semble simplement être un chaos d'événements. Et quand j'ai présenté la foi bahaï en Russie, il y avait beaucoup de communistes, évidemment, désillusionnés, n'est-ce pas? Enfin, des gens qui avaient vraiment cru au communisme, et qui étaient complètement désabusés, et surtout les intellectuels désabusés du communisme étaient pour la plupart extrêmement négatifs, extrêmement cyniques. C'est-à-dire ayant cru à la version marxiste de l'histoire, ayant été désabusés de cela par tout ce qui s'est passé en Union soviétique, il vient à la conclusion, l'histoire est un chaos, ça n'a pas de sens. J'avais des intellectuels qui m'avaient dit ça, ils avaient dit, quand j'ai parlé un peu de ce que je dis ce soir, à propos de dialogue entre Dieu et l'homme et tout ça, je me souviens, c'était à Kiev une fois, il y avait un intellectuel qui a dit, l'histoire n'a pas de sens, l'histoire ne veut rien dire. Comme dans une ligne de Shakespeare qui est très très bien connue, c'est dans Macbeth, si vous connaissez, il dit « La vie est une histoire racontée par un idiot, pleine de bris et de fureur, et qui signifie rien. » Évidemment, ça c'est Macbeth qui a tué une vingtaine de personnes juste avant sa mort, enfin, dans la grosse dépression. Sa femme vient de se suicider, n'est-ce pas, et tout, et tout, et tout. Et évidemment, c'est le cri de désespoir d'un homme qui a raté sa vie et qui se rend compte qu'il est à la fin de sa vie, qu'il a tout raté, qu'il n'a fait que du mal à tout le monde. Enfin. Mais en fait, cette notion que la vie, et cette phrase-là, c'est répété partout, enfin, William Faulkner a écrit une histoire là-dessus qui s'appelle « The Sound and the Fury »,« Le bruit et le fureur », et tout ça. Alors, donc, cette vision exactement de Shakespeare, en fait, de Macbeth, dans Shakespeare, c'est exactement la vision que beaucoup d'intellectuels ont de l'histoire, que c'est un conte articulé par un idiot, plein de bris et de fureur, et qui signifie rien. Alors donc, la question, c'est évidemment, comment trouver cette signification? Si vraiment il y a un processus et il y a une signification, comment le trouver? Alors, je veux être bref, donc je vais sauter tout de suite à certaines conclusions et on peut en discuter. Sur le plan social, ce dialogue se poursuit par le processus de révélation progressive, c'est-à-dire le dialogue entre Dieu et l'homme est initié par Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu qui envoie les prophètes. D'abord, c'est Dieu qui nous a créés et qui nous a dotés de la capacité de conscience, donc la capacité d'entretenir un dialogue avec lui. Si Dieu n'avait pas créé des chiens comme ça, si Dieu nous avait créés comme des chiens, on ne serait pas capable de maintenir. Un chien n'a pas de dialogue avec Dieu, n'est-ce pas? Il a peut-être un dialogue avec d'autres chiens, voire avec des êtres humains, mais pas avec Dieu, n'est-ce pas? Seul l'être humain peut entretenir un dialogue avec Dieu. Donc, ça c'est parce que Dieu nous a dotés de cette capacité. Mais non seulement Dieu nous a dotés de la capacité, mais il initie le dialogue en envoyant les prophètes, Abraham, Moïse, Jésus, Bouddha, etc. Donc, le grand dialogue entre l'humanité tout entière et Dieu se fait par l'entremise des prophètes que Dieu envoie. Et ces prophètes engagent un vrai dialogue avec l'humanité, n'est-ce pas, dans leurs écrits, dans leur vécu. Et ça, ce dialogue entre les manifestations de Dieu et l'humanité, et le dialogue entre nous et Dieu. Et que font les manifestations? Qu'est-ce qu'ils enseignent? Qu'est-ce qu'ils disent dans ce dialogue? Qu'est-ce qu'ils disent dans ce dialogue? Ils expliquent le sens des choses. Ils disent que nous sommes créés pour le développement spirituel, qui est une forme de progrès. Et ils nous expliquent comment se servir des outils de ce monde pour accomplir ce but qui est le progrès spirituel. Donc d'abord, il y a un but à notre existence, selon les prophètes. Maintenant, Abdu'l-Bahá explique que c'est un principe général de Dieu que tout ce qui vient en existence par étapes. Alors, la raison d'être de ça, c'est autre chose. Mais, encore une fois, les intégristes chrétiens, par exemple, considèrent qu'il y a 6000 ans à peu près, Dieu a créé tout d'un coup l'homme, etc., que la création a été faite instantanément par un acte seul de Dieu. Dieu a décrété que la lumière existe, que la terre existe et tout ça. Comme un comique américain a dit, d'abord il n'avait rien, et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, et il avait toujours rien, mais on voyait beaucoup mieux. mais en tout cas, donc, cette notion de création instantanée, ok? Tandis que nous savons que la vision scientifique, c'est l'évolution, nous savons que la Terre existe depuis des milliards d'années, que la vie sur la Terre a évolué pendant des longues périodes de temps, que ça prend un demi-milliard d'années, l'évolution depuis des animaux unicellulaires jusqu'à l'être humain, etc. Bon. Donc, nous savons que ce que nous avons aujourd'hui est venu par étapes. Abdu'l-Bahá dit, ça c'est la façon de faire de Dieu. Tout ce que Dieu vient en existence, tout ce que Dieu veut réaliser, se réalise par étapes. Et ces étapes permettent notre collaboration dans la chose. Donc, puisqu'il a un but, et le but c'est vers un développement, ça veut dire que c'est la notion de progrès. C'est la notion de progrès. Et du point de vue social, nous pouvons voir le progrès dans l'organisation de la vie sociale de l'humanité à des échelles d'unité de plus en plus grandes. La famille, la ville-État, la nation, et maintenant on approche l'unité des nations. C'est l'organisation progressive de la société à des échelles d'unité de plus en plus grandes. C'est le progrès sur le plan social. Sur le plan individuel, notre vie aussi passe par des étapes. On commence dans l'inconscience totale quand on est petit bébé. On est conscient de rien. On acquiert une conscience. On commence à apprendre. On achemine vers une certaine autonomie. Et vers l'âge, mettons, de 15 ans à peu près, une fois qu'on a passé la puberté et tout ça, on a acquis notre pleine autonomie du point de vue physique, c'est-à-dire on a toutes nos capacités physiques, sexuel, intellectuel, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? On est adulte du point de vue physique. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'on sait comment utiliser ces outils que nous avons. Et toute la vie, c'est un apprentissage là-dedans. Mais l'important dans ces étapes de la vie, c'est la chose suivante. C'est de chercher la signification de ce qui nous arrive. Et il y a une partie de cette signification que l'individu seul peut trouver. Ça, c'est le dialogue intérieur entre nous et Dieu. C'est-à-dire, je m'explique. Je vais donner juste quelques petits exemples pour éclairer la chose. Je peux me poser la question, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je toue? Mais depuis 4000 ans, Dieu a dit à travers tous les prophètes, tu ne tueras point, n'est-ce pas? Jésus a dit que... Mais, le plus grand acte de l'homme, c'est de sacrifier pour les autres. Baha'u'llah a dit, il vaut mieux être tué que de tuer. Okay? Tous les prophètes ont enseigné cela. Donc, je n'ai pas à prier, à me mettre à genoux, à prier à Dieu, est-ce que je dois tuer ou non? Je suis un être humain et tous les êtres humains sont exhortés de ne pas tuer. Ok? Est-ce que moi je peux voler? Non, je n'ai pas à chercher la question si je dois voler ou non. Tous les prophètes ont enseigné que le vol est contre la volonté de Dieu. Donc, la signification de beaucoup de choses, on l'a simplement par le fait d'être humain et de participer à la signification globale. Évidemment, il faut reconnaître cette participation. Si on ignore cette chose-là, si on ne connaît pas les prophètes et tout ça, ben, on peut simplement ne pas savoir cette chose-là. On peut l'ignorer. Maintenant, mais je pense souvent à la volonté de Dieu comme des cercles concentriques qui s'englobent les uns dans les autres. Mais il y a ce petit cercle de la conscience de l'individu et il y a une petite partie de cette signification que seul l'individu peut trouver. C'est-à-dire, moi je ne peux pas, il y a certaines choses dans votre vie que ni moi, ni votre psychiatre, ni votre psychologue, ni votre ami, seulement vous pouvez trouver le sens de ces choses-là. Dans votre dialogue intérieur avec Dieu. Et donc, en quelque sorte, la tâche que nous avons dans notre dialogue individuel avec Dieu à chaque étape de notre vie, c'est de chercher à trouver la signification de ce qui nous arrive. Mais déjà le fait de savoir qu'il a une signification est un immense avantage, n'est-ce pas? La plupart des gens disent, mais voilà, ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Même le fait de concevoir qu'il y a une signification, c'est déjà une grande consolation. Et d'ailleurs, il a cette promesse de Baha'u'llah qui dit tout simplement « Quiconque fait effort pour nous, dans notre chemin, nous le guiderons. » C'est-à-dire, il donne la promesse, ou comme Jésus a dit, ouais, il récite Mohammed, oui, c'est un hadith, mais Jésus a dit « frappe à la porte et on vous ouvrira. » N'est-ce pas? Ça, c'est un dire de Jésus qui est bien connu. Donc c'est la même promesse. Si vous demandez sincèrement, Dieu donnera une réponse. Dieu ne joue pas un jeu avec nous, mais il exige que pour qu'on puisse recevoir la réponse, il faut qu'on soit dans une certaine condition intérieure. On ne peut pas simplement dire, bien sûr, j'aimerais savoir pourquoi. Il faut faire un effort pour se mettre dans une condition intérieure qui nous permet de recevoir la réponse.
Il faut chercher
la vérité. Alors, c'est essentiellement ça que je voulais dire, cette notion de dialogue entre nous et Dieu, qui est un processus qui nous mène vers un développement de plus en plus grand. Donc on va quelque part, on ne reste pas où on est, n'est-ce pas? On va quelque part, la civilisation va quelque part, n'est-ce pas? Donc la notion de progrès est essentielle à la vision Baha'i et de la vie collective et de la vie individuelle. Et la vision que Baha'u'llah nous donne, c'est une vision de progrès sans cesse. De progrès sans cesse et de la collectivité et de l'individu. Alors, encore une fois, cette vision de la vie comme un processus qui se réalise par des étapes est une vision révolutionnaire. C'est une vision absolument révolutionnaire qui n'existe pas dans les religions du passé et dans les philosophies du passé. Donc je nous incite à réfléchir là-dessus, s'il vous plaît. Ok.
Merci, Bill.